Dans la deuxième ligne, nos agriculteurs, nos enseignants, nos chauffeurs routiers, livreurs, électriciens, manutentionnaires, caissiers et caissières, nos éboueurs, personnels de sécurité et de nettoyage, nos fonctionnaires, nos journalistes, nos travailleurs sociaux, nos maires et nos élus locaux. Et j'en oublie tellement. Tous ont permis à la vie de continuer.
C'était il y a 2 ans, le 20 avril 2020. À l'instar de presque toute la population française, marquée par un mois de confinement et de restrictions, Emmanuel Macron saluait l'investissement de tous, et notamment des travailleurs de deuxième ligne, un terme qui venait d'entrer dans le langage courant. Chacun a réalisé à ce moment-là que sans chauffeur routier, sans livreur, sans caissière, sans éboueur et sans aide à domicile, la France aurait sombré dans le chaos. D'où une accélération de la réflexion sur la reconnaissance de ces professions.
Il y a des compétences très spécifiques dans ces métiers. L'expérience compte, donc il faut essayer au contraire de fidéliser ces salariés et de les conserver pour donner une bonne qualité de service. Mais en échange, ça suppose aussi qu'on soit prêt à payer plus, puisque effectivement, ce sont des services qui ont une valeur sociale importante.
Un rapport pour le ministère du Travail a répertorié 17 professions regroupant 4 600 000 salariés en contact avec le virus et dont les emplois ne sont pas télétravaillables. Ces salariés, en outre, sont souvent à temps partiel avec de faibles rémunérations. Après avoir été applaudis comme les soignants, ils ont pour la plupart retrouvé le cours normal de leur vie. Certains, c'est le cas des aides à domicile, ont vu leur salaire augmenter. D'autres n'ont que le souvenir de cette soudaine considération.
Souvent, avec mes collègues, j'en parlais en salle de pause, en disant « on est là, ils le voient, ils nous félicitent, ils nous applaudissent ». On a dit « waouh, mais ça va changer ». Ça a duré, allez, 3 semaines. Et on est redevenus des fantômes.
24 mois après le début de la crise sanitaire, Vanessa Descoureaux est allée voir comment vont ces invisibles du monde du travail. En ce début de printemps, à l'heure où la ville dort encore, elle retrouve une équipe d'éboueurs. Métier de deuxième ligne, métier de première importance, c'est un reportage de Vanessa Descoureaux.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction.
Il fait meilleur dedans. Le matin, c'est le tour des bennes pour vérifier déjà s'il n'y a pas de casse et surtout vérifier si les réservoirs n'ont pas été visités. Parce qu'avec la hausse du prix des carburants, malheureusement, ça arrive qu'on ait des réservoirs...
Siphonnés.
Oui. Donc voilà. Donc le matin, tour d'ébène. Voilà.
Voilà. 5h du matin à Angoulême. Les véhicules sont en train d'être préparés pour partir pour la tournée du matin. Il y a 3 hommes par véhicule, un chauffeur et 2 rippers, comme on les appelle.
Bon, RAS.
Tout va bien ?
Tout va bien.
On sent que ça s'agite un petit peu.
Oui, là, 5h, de 5h à 5h30, c'est le moment où c'est le coup de bourre, quoi, comme on appelle ça. Excusez-moi, je demande. Seb ?
Je m'appelle Ludovic Sanchez. Ça fait bientôt 17 ans que je travaille dans le métier des poubelles.
Donc vous êtes le chauffeur de l'équipe ?
Chauffeur remplaçant. Chauffeur titulaire et de repos, et moi je suis chauffeur remplaçant.
Là, vous avez les 2 rippers qui sont dans le secteur en train de ramasser, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, oui. Il y en a un qui rapilote un peu devant et derrière, ça charge.
Comment vous êtes retrouvé dans ce métier, monsieur ?
Alors moi, c'est par hasard, tout à fait par hasard. Je suis paysagiste de métier. Mon patron a cédé son activité. J'étais chez mes parents encore et j'ai été à un forum de l'emploi où on m'a posé la question si ça m'intéressait de le faire pour 15 jours et ça fait bientôt 17 ans que je suis là, que je suis dans ce monde-là. Donc c'était par hasard. Mais oui, c'est quand même un métier qui est assez difficile pour... Ah, voilà, je les ai oubliés. Vous voyez, ça commence.
Ça C'est à cause de moi.
C'est pas évident de faire 50 choses à la fois, je l'accorde. Mais bon, on va y arriver. Mais c'est vrai que c'est un métier difficile, oui.
Et pas assez reconnu.
C'est pas que c'est pas reconnu, mais les gens, tout de suite, on oublie des poubelles, on est des bons à rien, on est fonctionnaire, on est des feignants. Voilà, autrement, bon, c'est un beau métier. Hein. Moi, il y a des jeunes qui veulent le faire et je les incite à le faire. Voilà. Après, c'est la mentalité extérieure qui est dure des fois à entendre, mais bon, autrement, non, c'est un bon métier. C'est là qu'on voit qu'on a quand même besoin, Covid ou pas, ben, qu'on a quand même besoin de nous. Quoi. C'est là où on a été vraiment, touché par les gens, parce qu'on a eu beaucoup de messages et beaucoup de dessins par les enfants qui nous ont dit « Courage, vous faites un beau métier et tout ». Donc, ça nous a redonné un peu de courage et ça a redoré le blason un peu.
Ça fait du bien.
Oui, ça fait du bien. Oui, tout à fait. Oui. Ça fait vachement de bien. Ouais. Parce que quand on a des retours positifs comme ça, aussi bien pour les encadrants que pour les rippers et même pour les dirigeants, bon, ben, on se dit voilà, on fait quand même un beau truc. Voilà, quoi. C'est bien, quoi. Excuse-moi, Kevin. Oh, c'est pas toujours évident, mais bon. C'est comme ça. Kevin, tu en as un dans la petite rue là. Donc voilà, c'est au chauffeur de faire attention à tout si les rippers ne veulent pas. Donc ouais, vous voyez. Oui, ok. Donc vous voyez, on a les yeux partout. On a les rippers, heureusement, vous voyez, qui nous guident pour dire bon ben s'il faut avancer, s'il faut enlever la vitesse pour faire tourner la pelle. Donc voilà, quoi. C'est un travail d'équipe. C'est obligé que ce soit un travail d'équipe.
Pour l'agglomération du Grand Angoulême, il y a une quinzaine de bennes qui sont déployées chaque matin. Ça représente une cinquantaine d'agents. Vous avez la forme, hein ?
Ah, toujours, vaut mieux, hein. 51 ans et toutes ses dents.
51 ans.
Ouais.
Et Ripper.
Chauffeur des Ripper, tout.
46 ans, 51 ans et 49 ans au volant.
C'est une équipe, expérimentée.
C'est une équipe qui fonctionne bien.
Attention à vous derrière, c'est la route.
Alors, on a changé de tournée, changé d'équipage et on est dans la cabine d'un nouveau camion avec un nouveau chauffeur. Vous vous appelez comment ?
Laurent.
Ça fait combien de temps que vous faites ce métier, Laurent ?
Moi, ça fait 25 ans.
Comment vous parleriez de votre métier, monsieur ?
Quand il y avait le Covid, eh ben, tout le monde nous remerciait, nous mettait des petits autocollants pour dire merci, les enfants nous faisaient des dessins. Aujourd'hui, un peu moins, ils nous oublient un petit peu, mais bon... Il faut voir ce qui se passe aussi à côté. Donc, bien sûr, il y a plus grave que de ramasser des ordures ménagères. Hein. Avant, les gens nous regardaient, ah, les gens, ils sont sales, ça pue. Aujourd'hui, non, ils ne nous regardent plus de la même façon, les gens, quand même.
En pleine manœuvre.
Excusez-moi, ouais, je me concentre.
Vous faites bien.
Surtout qu'on a des personnes derrière. C'est...
Qu'est-ce que vous dites aux jeunes que vous pouvez... côtoyer dans votre travail? Vous dites de persévérer dans ce boulot, d'en trouver un autre. Qu'est-ce que vous leur dites?
Ah non, moi je dis que c'est un bon boulot. On a des horaires quand même. Bon, c'est vrai que le matin, il faut se lever de bonne heure. Mais après, quand même, ça nous laisse l'après-midi. On fait une petite sieste, puis après, on peut quand même bricoler chez soi. Ça nous laisse du temps. Quand j'ai embauché, on a embauché à 2h du matin à l'époque. Débauché vers 8h30, 9h. Et ma femme, elle est serveuse, donc elle a embauché à midi. Ça me laissait le temps de m'occuper de mon enfant, de pas dépenser l'argent dans une nounou. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est appréciable.
Je profite de la pause pour aller voir Jean-William. Reaper. Depuis combien de temps déjà ?
Bon, ça va faire 6 ans, 7 ans maintenant que je suis dans le métier.
Et pour vous, c'est quoi le plus dur dans ce métier ?
Le plus dur, alors, il y en a plein. Il y a la météo, les charges des poubelles, ce qu'on met dedans des fois aussi. Les horaires aussi, qui ne sont pas forcément évidents. 3h du matin, se lever, c'est pas donné. Et puis voilà, à part ça, la météo aussi, beaucoup. Au bout d'un moment, à un certain âge, ça commence à peser.
C'est un métier très physique.
Extrêmement physique.
On vous voit courir dans tous les sens.
Exactement. C'est pas de la course parce que tout est calculé, on a l'habitude de le faire. Mais oui, il faut se déplacer, on peut pas le faire à 2 km/h, oui, effectivement.
Est-ce que ce métier est reconnu à sa juste valeur ?
Alors, je vais vous donner ma paye. Je suis chauffeur, je suis reaper, je fais les deux. Je touche 1450 euros net par mois.
Me levant à 3h du matin.
En me levant à 3h du matin. Et un chef chez nous est payé à peu près 1550, 1600 euros net par mois. Et un reaper est payé 1350 euros net par mois. À vous de décider si c'est bien payé ou pas.
Et la considération, c'est que le salaire selon vous ou c'est un élément très important ?
Non, la considération, on l'a entre nous. Nous, on sait ce qu'on fait. Maintenant, non, on a quand même un public dans les villages qui est très, très, très sympathique, qui comprend la difficulté de notre travail. On a beaucoup de très bons retours des gens. Les mauvais coucheurs sont assez rares. Et moi, j'adore mon métier. J'adore ce que je fais. On aime tous, je crois, notre métier. On n'est pas prêt à le lâcher. C'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, vous voyez le côté agréable du métier avec le soleil et le beau temps.
On est gâté aujourd'hui.
On est gâté aujourd'hui. C'est vrai qu'on a une super météo, mais... voilà, non, c'est vrai que dans l'imaginaire des gens, soit on leur recale notre vraie paye dans la tête, leur dire voilà, on est des fonctionnaires, nous sommes payés tant, mais on n'arrache pas des sommes extraordinaires comme les gens l'imaginent. Mais par contre, ce sont des métiers qui nous plaisent et puis on n'a pas envie d'en sortir. Et puis on le fait bien, on le fait avec passion parce qu'on est au service de la population.
Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier, justement, de voir ce que l'on voit autour de nous, c'est-à-dire une ville propre ?
On est utile, voilà, c'est ça, c'est exactement ce que vous venez de dire. On est utile, en fait, c'est notre utilité se voit quand on s'arrête de travailler. C'est aussi simple que ça. On est indispensable au bon fonctionnement de la société, c'est ce qui donne la valeur à notre métier. Après, bon, on est des métiers cachés comme ça que personne ne regarde vraiment, mais c'est vrai que si on s'arrête de travailler, c'est là où on sait à quoi on sert.
Mais pourquoi on ne regarde pas, justement, ce genre de profession ? Parce qu'on se dit, mon Dieu, il ramasse des ordures, c'est ça ?
Pourquoi la nôtre plus que celle des infirmiers ? Et puis en plus, il y a toujours les stéréotypes. Vous avez l'image de ceux qui vont ramasser des poubelles sont ceux qui n'ont jamais réussi à l'école. Vous comprenez ? Alors que c'est faux, on a vraiment tous les profils chez nous. On a tous les gens. Bon, on arrive des fois après des accidents de la vie à ramasser les poubelles, mais on se rend vite compte que c'est un vrai métier, c'est une vraie profession et qu'en plus, il y a une utilité de dingue. Donc c'est ça qui nous motive en fait tous les jours, c'est de savoir qu'on est utile à la société au même titre que des pompiers, des médecins. Mais nous, on ne nous voit pas, mais c'est pas grave. Nous, on sait à quoi on sert.
Voilà, c'est la fin de la pause. Donc retour à la normalité, retour à la collecte.
Donc Eric Pétour, donc je suis chef d'équipe à la collecte du matin. J'embauche à 4h30 jusqu'à midi. Aujourd'hui, on est redevenu un peu un métier de l'ombre, mais ça n'enlève rien à ce que font les agents. Quoi.
Si éboueur est un métier de l'ombre, comme vous le qualifiez vous-même, c'est aussi un métier qui permet de comprendre mieux la société française. Vous avez accès à des indicateurs de la façon dont le pays vit ?
Complètement. Complètement. Nous, on est un véritable indicateur du pouvoir d'achat. En temps normal, vous avez sur un mois, vous avez une, deux semaines, les tournées sont bien chargées, bien complètes. Et puis, vous avez la fin de mois où c'est beaucoup plus calme. Et là, on le constate avec la hausse du prix du carburant. Où malheureusement, on voit que les gens ils consomment autrement. Ce qu'ils mettent dans le carburant, ils le mettent plus dans l'alimentation. Nous, on le voit tout de suite. Bon, je parle de la hausse du carburant, je peux parler de ce qui se passe en Ukraine. Les gens consomment différemment.
Ils font plus attention ?
Oui, je pense, oui.
Vous faites plus attention ?
Mais ce que vous mettez dans le carburant, vous ne le mettez pas dans les pâtes ou dans la viande, hein. Tout simplement. Malheureusement, je dirais.
Rosa, Rosa, quand on fout le bon... bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, batère, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas.
L'importance des fameux métiers de deuxième ligne a sauté aux yeux de tous à l'occasion de la pandémie. Au point que le ministère du Travail a sollicité un rapport établissant une sorte d'état des lieux des métiers indispensables à la continuité économique et sociale. Rapport qui se termine par un certain nombre de recommandations, parmi lesquelles éviter le maintien de salaires trop faibles, améliorer les conditions de travail et réduire ou compenser les contraintes horaires, ou encore favoriser les parcours professionnels ascendants. Vanessa Descoureaux va rencontrer Christine Herrel, économiste au Conservatoire national des arts et métiers. Elle est l'une des autrices de ce rapport.
Un des points essentiels, c'est de faire percevoir aussi aux employeurs, et je pense que certains l'ont bien en tête, que malgré tout, il y a des compétences très spécifiques dans ces métiers et que donc les salariés ne sont pas interchangeables, l'expérience compte. Donc il faut essayer au contraire de fidéliser ces salariés et de les conserver pour donner une bonne qualité de service. Mais en échange, ça suppose aussi que du côté des consommateurs, quels que soient ces consommateurs, que ce soit nous en tant que par exemple que employeurs d'aide à domicile ou que ce soit des entreprises qui vont embaucher des gens, des agents de propreté, etc., il faut aussi qu'on soit prêt à payer plus pour ces services, puisque effectivement, ce sont des services qui ont une valeur sociale importante.
Christine Herrel, donc là, on en arrive à un autre aspect de votre rapport qui est plus porté sur des propositions, et notamment sur la partie des contraintes horaires.
Dans les mécanismes qui peuvent améliorer les choses, on a toute cette réflexion sur le travail en journée continue qui est possible dans certains métiers. Donc typiquement, le secteur de la propreté, par exemple, a engagé ces réflexions-là. Mais ça suppose aussi une réorganisation pour les entreprises clientes, puisque du coup, il faut accepter que les agents de propreté soient là en même temps que les salariés. Alors, il y a d'autres métiers où ça va être plus compliqué. Par exemple, l'aide à domicile, typiquement, on a des vrais besoins en soirée et des vrais besoins le matin tôt. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas éviter. Par contre, on peut quand même travailler sur les plannings pour essayer de faire en sorte que ce ne soient pas les mêmes personnes qui interviennent aux deux extrêmes de la journée, que les temps de trajet soient aussi pris en compte dans la rémunération. Entre deux missions qui s'enchaînent, s'il y a trois quarts d'heure de trajet, ces trois quarts d'heure de trajet soient rémunérés. Et ça n'est pas le cas pour le moment.
Est-ce qu'on n'est pas dans un moment extrêmement favorable pour ces métiers pour enfin obtenir gain de cause? Parce que souvent, des négociations, soit salariales, soit sur le travail, la répartition du temps de travail, datent bien avant la crise sanitaire. Là, c'est un moment où il y a possibilité peut-être pour ces professions d'obtenir gain de cause?
Il y a quand même effectivement la conscience plus forte aujourd'hui de l'importance de ces travailleurs. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit d'ailleurs dans la grande distribution, par exemple. Il y a quand même eu un certain nombre de négociations qui ont eu lieu en concernant les caissiers et caissières, par exemple. Donc là, j'ai vu que Cora avait signé un accord. Donc là, on est au niveau d'une entreprise, pas au niveau de la branche, mais qui justement porte à la fois sur des questions de rémunération et sur des questions d'organisation du temps. Ce qu'on a essayé de montrer aussi, c'est l'intérêt d'avoir une approche en matière de qualité de l'emploi et du travail, pour tous en fait. Donc la dimension rémunération, mais pas seulement, parce que c'est très important pour les gens qu'on prenne en compte aussi d'autres dimensions. Je pense que c'est une perspective intéressante.
De ne pas mettre le focus exclusivement sur le salaire, mais d'une manière générale sur la qualité de travail. Ça, voilà. C'est quelque chose de très contemporain. C'est vraiment l'époque.
Exactement, et je pense que c'est quelque chose de très important et que les jeunes, par exemple, notamment, valorisent de plus en plus. On le voit clairement dans les choix de carrière que font les jeunes aujourd'hui. Ils déclarent vraiment que cette dimension est très importante pour eux, la capacité à concilier avec leur vie personnelle et familiale en particulier. Et donc, effectivement, du coup, ça a des implications sur les horaires, l'organisation du travail. Donc, ce sont des dimensions vraiment importantes à prendre en compte.
On va s'intéresser désormais à la grande distribution, les caissiers ou les caissières plutôt, tant le métier est féminisé. Près de 700 000 salariés travaillent dans le secteur. Ce sont par définition des commerces essentiels. Et ces caissières ont tout vu de nos angoisses, de nos peurs irrationnelles quand elles ont vu les rayons de pâtes se vider, ceux du papier toilette également. C'était au printemps 2020. Et au sortir de ce premier confinement, ces travailleurs de la deuxième ligne ont reçu une prime de 1 000 euros. que les entreprises ont versé selon leur bon vouloir, ce qui fait que tout le monde n'a pas été logé à la même enseigne.
Bonjour, je m'appelle Lévine, j'ai 48 ans. Je travaille depuis 10 ans à Carrefour Toulon-Mayol.
Est-ce qu'il a fallu ce premier confinement pour que vous, vous réalisiez, Evelyne, que vous faisiez un métier extrêmement important, essentiel, comme on l'a qualifié?
Ah non, pas du tout, non. Depuis 10 ans que je fais ce métier, on le voit en caisse. Non, c'est très important. Il y a des personnes qui voient que nous dans la journée. Surtout nous, ici, en centre-ville. On a beaucoup, énormément de familles, des petits budgets. Quand on leur dit qu'ils prennent un produit, qu'on sait que le deuxième est gratuit, donc on leur dit, ils sont super contents, ils sont... Voilà.
Au sortir de ce premier confinement, il y a eu la prime de 1000 euros versée par les entreprises. Est-ce que tout le monde l'a reçue?
Alors non, tout le monde ne l'a pas reçue, en fait. C'était les employés qui étaient présents pendant tout le confinement. Donc il y a des mamans qui sont restées chez elles pour garder leur enfant. Elles ne l'ont pas eu. Et pourtant, je veux dire, qu'elles soient en magasin ou chez elles en train de garder leur enfant, elles ont contribué à l'entreprise, en fait. Donc on n'a pas compris pourquoi ils ne l'ont pas eu.
Au-delà de cette prime, il y a eu d'autres gratifications?
Ah non, aucune. Est-ce que notre vie vaut 1000 euros, en fait? Tout simplement.
Parce qu'il faut rappeler, hein, vous n'aviez aucune protection à l'époque.
Exactement. On n'avait pas de plexi, on n'avait pas de gants, on n'avait pas de masque. On avait la boule au ventre, en fait. On était dans le flou complet. On avait peur. On a eu les gants après. On a eu droit à un masque par jour. Normalement, on doit le garder que 3 heures. En fait, une petite anecdote, une mamie, une cliente, nous a confectionné 200 masques. C'était beau, quoi. C'était trop beau. Et c'est nos clients qui ont fait un geste, en fait. Ça se voit qu'on était importante à cette époque-là.
Vous vous attendiez à devoir vous battre après ce qui s'est passé il y a 2 ans avec le premier confinement?
Ah ben non, justement. Non. On pensait, on se disait, ils vont bien voir qu'on est, essentiel. Et puis non. Non. Souvent, avec mes collègues, j'en parlais en salle de pause, en disant « On est là, ils le voient, ils nous félicitent, ils nous applaudissent. » On a dit « Waouh, mais ça va changer !» Ça va changer, on va être considérés. Eh ben non, pas du tout. Ça a duré, 3 semaines. 3 semaines, et on est redevenus des fantômes.
Ça vous fait travailler tard aussi?
C'est rien du tout, ne vous inquiétez pas.
Parce qu'on voit tout le monde, tout le tour. C'est tard.
Alors, on est en train de se diriger chez Chantal, qui est caissière chez Carrefour, dans un Carrefour de région parisienne. On ne va pas le citer pour des raisons de confidentialité. C'est un métier que vous faites depuis 10 ans maintenant. Et vous gagnez entre 1100 et 1200 euros par mois.
Oui. C'est une journée. Je suis épuisée avec le masque. C'est pas évident. Toute la journée, j'ai que les 30 minutes pour enlever ça. Donc, quand je rentre comme ça, je suis capote, out, fini.
Voilà. Ouf. C'était quoi la journée aujourd'hui? Les horaires, c'était quoi?
Donc, j'ai passé une journée de 10h30 à 18h30.
Aujourd'hui, vous avez un temps plein?
Oui.
Mais pas uniquement en caisse?
Oui, là, ça s'appelle polyactivité. Donc, je suis en caisse. Et je vais compléter un rayon. J'ai fait 30 heures en caisse et 5 heures en rayon. Comme ça, ça me donne les 35 heures pour pouvoir gagner 1100, 1160, 1200.
Parce que si vous restiez uniquement en caisse...
J'ai que 920. C'est pas assez pour le loyer, l'essence, les assurances, mon téléphone, c'est pas assez.
Est-ce que les choses se sont arrangées depuis la crise Covid?
Non, les choses ne se sont pas arrangées. C'est toujours ce problème de salaire qui... Parce que pour nous, en caisse, c'est vraiment trop bas.
Pour vous, c'est le problème principal, le salaire?
Oui, oui. Parce qu'on n'est déjà pas considéré dans la société. Et encore, un salaire qui ne suit pas, ça cause problème.
Vous en souffrez de ça?
Tout à fait, bien sûr, parce que nous, on pense être utile. La preuve, on avait fermé tout le monde travaillait étant à la maison. Nous, on était restés, on sortait et personne ne voit ça qu'on fait quelque chose ou qu'on a fait quelque chose ou qu'on mérite de gagner mieux, un peu mieux, quoi.
Et vous vous êtes dit à un moment, avec la crise du Covid, enfin, les gens vont nous reconnaître et l'utilité de notre travail.
De notre travail, tout à fait, c'est ce qu'on s'était dit. Mais malheureusement, une fois que 2020 est passé, les gens sont revenus à leur habitude. Caissier, c'est rien du tout, ça sert à personne. Or, si nous, on n'est pas là, les gens ils mangent pas. Si on est fermé, les gens ont vite oublié.
Chantal, vous avez préparé minutieusement cette interview, puisqu'il y a une petite feuille devant nous, sur laquelle je vois que vous avez transcrit une citation de votre PDG, Alexandre Bompard, donc le PDG de Carrefour, qui, pendant la crise du Covid en 2020, a dit cette phrase.
Vous n'êtes plus Carrefour, vous êtes les services publics de l'alimentation. Aujourd'hui, les choses sont redevenues, c'est nous, toujours les bons à rien. Moi, j'ai le souvenir, l'année dernière, après Covid, en début d'année, il y a un monsieur qui a craché, boum, comme ça, au visage de ma collègue. Qu'est-ce que Carrefour fait? Carrefour paye le client un bon d'achat de 50 euros, alors que c'est lui qui vient de cracher sur son employé, et ma collègue, elle est virée. Ça prouve encore que le métier de la caisse Carrefour même ne nous donne pas considération avec ça. Donc, les trucs comme ça, ça nous fait mal. On comprend bien que tout, c'est pour le client et pour les actionnaires. Mais c'est nous, en bas ici, qui faisons que ça produit.
Comme Evelyne, la caissière de Toulon, quelques 4 millions de salariés ont bénéficié de la prime Macron. Une prime exonérée d'impôts et de cotisations sociales à la discrétion des employeurs, dont le montant moyen a été de 506 euros en 2021. La reconnaissance financière pérenne, ce sont les aides à domicile qui l'ont obtenue de la manière la plus robuste. Une renégociation de leur convention collective a débouché sur l'amendement 43, permettant une augmentation de salaire de 13 à 16%, pouvant aller jusqu'à 300 euros par mois. Vanessa Descoureaux est en Lorraine pour suivre une de ses aides à domicile dans sa tournée quotidienne.
Interception sur France Inter.
À 7h30 du matin, c'est le début de la tournée avec Valérie Salicetti qui est aide à domicile depuis une quinzaine d'années. Nous sommes à côté de Baccarat, en Meurthe-et-Moselle.
Bonjour. Comment allez-vous?
Bonjour.
Oh, ben, comme quelqu'un qui est encore au lit.
Bonjour, madame.
Vanessa. Enchantée.
Pareillement, madame.
Il y a eu du vent aussi ce week-end.
Oui, oui. Hier, cette nuit encore. Je croyais que ça devait être fini, moi.
Ah, la nuit encore?
Ah, cette nuit, on a encore eu des sacrés rafales, hein.
Vous n'avez pas eu de dégâts?
Je sais pas, je vais pas dehors.
Alors, on va faire le change.
Oui.
Il y a 5 mois, cette femme de près de 80 ans a perdu l'usage de ses deux jambes.
Je vous baisse un petit peu la tête du lit, c'est pour oui. Vous. Vous avez plus mal les côtes, hein?
Non, j'ai plus.
Pas plus.
Non, j'ai mal partout les bras.
Mais vous avez des bleus partout.
Oui, à peine qu'on me touche, je prends ça. Parce que là, c'est pas des piqûres, hein?
Non, non, non.
Moi, mon sujet est sur le métier de Valérie.
Ah, moi, je. C'est j'admire. Et d'ailleurs, il faut qu'elle soit faite pour ça. Parce qu'il y a, un oubli de soi et un bien-être pour les autres que tout le monde n'a pas. En plus, c'est vrai que c'est des métiers où il faut une certaine discrétion. On entre quand même dans l'intimité des gens. Et en plus, c'est ce que je dis, quand c'est des gens âgés comme nous, on n'a pas été habitués à se montrer sous tous nos côtés. Alors quand on a la chance de tomber sur des personnes les soignantes ou les qui vous mettent à l'aise sans en faire ni trop ni vous voyez, enfin c'est un métier qu'on n'apprend pas, qu'on a l'idée de faire et il faut l'aimer pour le faire. C'est inné je pense hein, hein parce que il y a des parce qu'on a plusieurs quand même personnes hein, chacun a sa méthode. Mais il y a quand même toujours ce fond de rendre service, de bien-être à ceux qui viennent voir. Hein, disons qu'il n'y a pas que le truc de vous laver, il y a la petite parole gentille. Je vous dis, ça ne s'apprend pas, ça. Et heureusement, première fois hein, que ça m'arrive, j'ai eu la chance jusque maintenant de ne pas avoir trop de pépins de santé. C'est un des côtés rassurants. Quand vous avez la possibilité d'être hospitalisé à la maison, et sans eux, ce ne serait pas possible. On attend leur visite.
On fait la toilette du haut où ? À la salle de bain aussi ?
Oh, vous pouvez la faire là.
Ici, vous ne voulez pas vous lever ?
Non, je me lèverai après.
Je vous lève après ? Ou vous voulez qu'on fasse la toilette au fauteuil ?
Ou alors on va à la salle de bain ?
Tu ne veux pas te mettre dans le fauteuil pour amener la salle de bain ?
Mais si, vous savez bien que c'est lui qui convoque.
Non, c'est vous.
On va à la salle de bain.
D'accord.
Vous avez travaillé, vous, madame ?
Oui, toujours. Oui. J'étais représentante et après, j'ai travaillé pour mon mari qui avait une entreprise.
D'accord. Toujours active.
Toujours active.
Très bien.
Alors, d'où la situation là, mais difficile.
Je vous relève la tête, hein ?
Oui.
On y va doucement.
Hein ? Oui, ouais. Lentement, mais sûrement.
Voilà. Ouais, ouais. Toujours super active, mais...
Ouais. Hein. C'est vraiment la catastrophe pour moi. La santé, ça n'est pas catastrophique. Mais le fait de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit, c'est... Bientôt, je vais me battre avec le mari pour avoir l'occupation.
Faut pas lui dire. Hein.
Oh.
Abandonne.
Quand il faut cuire un œuf, y a-t-il bien. Il connaît tout maintenant.
Bonne journée.
Merci, vous aussi.
À mercredi.
À mercredi. Au revoir, Sam.
Au revoir. Merci pour l'accueil.
Je vous en prie.
Je sais que le temps est compté, Valérie, mais est-ce que vous pouvez réagir à ce que la dame a dit sur votre métier ?
C'est réconfortant d'entendre des choses comme ça. C'est agréable.
Elle a raison quand elle dit qu'il faut avoir ça en soi pour faire un métier de don, quelque part.
Elle a raison, tout le monde ne peut pas le faire. Alors moi, j'ai toujours voulu travailler dans le social. Et j'aime les gens, il faut aimer les gens. Moi, on me donne beaucoup. Hein. Les personnes me donnent, c'est un échange entre la personne et nous. Hein. C'est vraiment... je donne peut-être, mais je reçois énormément.
On continue la tournée ?
On continue.
Pour un contrat de 120 heures mensuelles, Valérie gagne 1500 euros. La valorisation salariale obtenue par le secteur a représenté une hausse de 300 euros par mois pour cette mère de famille. C'est quoi votre semaine type, Valérie ?
Un semaine type, c'est 7h30 midi, 13h, 15h30, 17h, 20h. Une amplitude horaire assez large, et les week-ends. Hein. La vie de famille, c'est un petit peu... Alors, mes enfants sont grands, c'est un avantage que j'ai. Ça fait partie du métier. C'est un choix, c'est le choix qu'on a fait.
Combien de jours par semaine ?
4 jours et les week-ends. Un week-end sur 3 pour ma structure.
Donc ça veut dire pour vous combien de jours de repos par semaine ?
Un jour, un seul, oui. Il faut tenter l'expérience. Je pense que certaines personnes ont la capacité, mais qu'elles se disent « Oh non, je ne me vois pas ». Parce qu'on est quand même confronté à la vieillesse, au handicap, à la nudité. Hein. Mais je pense que certaines personnes ont la capacité, mais qu'elles n'osent pas, parce qu'elles ont peut-être un a priori par rapport à la vieillesse ou la nudité. Mais il faut essayer. La vieillesse fait peur, c'est un petit peu le miroir. Hein. Oui, ça fait peur. Il faut savoir s'adapter. Il faut avoir une capacité à s'adapter à tout type de personnes, hein, parce que le public est très varié. Hein. Il faut savoir s'adapter.
Il faut être là, mais discret.
Ah oui, bien sûr, oui, il faut être là, il faut écouter. Souvent, je dis, tout ce qui est dit dans la salle de bain, c'est souvent dans la salle de bain, tout ce qui est dit ici ne ressort pas de la salle de bain. Même au bureau, mes responsables ne sont pas au courant de certaines choses, parce que c'est leur vie, c'est personnel. Alors, je pense que l'écoute est le plus important.
C'est difficile de partir, parfois, de chez
eux ? Oui, parfois c'est difficile parce qu'on les voit qui... Quelquefois, il y a de la tristesse hein, quand même. Quand on part, ma collègue arrive à midi, donc elles vont être seules pendant 4 ou 5 heures. Donc c'est un petit peu... Oui, on sait qu'elles vont être seules.
On quitte quelques instants Valérie et sa tournée du matin pour rencontrer le directeur de la fédération ADMR ici pour le département de Meurthe-et-Moselle. ADMR pour aide à domicile en milieu rural, c'est un réseau associatif et le directeur départemental s'appelle Jean-Marc Lucien.
On a du mal encore à recruter parce qu'il y a une pénurie de personnes formées et intéressées ou qui connaissent le métier aujourd'hui. On a besoin là d'une centaine de personnes en CDI quasi temps plein et d'une centaine en CDD pour justement remplacer les absences. Et c'est vraiment pour répondre à ce que l'on a aujourd'hui comme engagement avec les personnes que l'on aide. Ce n'est même pas en perspective des courbes démographiques.
Cette branche, ce métier d'aide à domicile est l'un des rares à avoir vu une augmentation de salaire assez conséquente au terme de cette crise Covid, puisque c'était en avril. Il a été décidé, dans le cadre de l'avenant 43, d'augmenter les salaires de 13 à 15%, ce qui n'est pas négligeable. Est-ce que ça a réglé les problèmes, tout ou partie ?
Il est presque trop tôt pour le dire. On commence à en voir les effets. Alors vous avez raison, c'est une hausse substantielle. Elle a le mérite de valoriser les actes qui sont réalisés, d'abord, et pas spécialement et uniquement le diplôme. C'est aussi une forme de rattrapage, parce que voilà, moi j'ai assisté à l'augmentation de la convention collective, sa refonte en 2002, 2003, 2004, et en fait depuis, la valeur du point a été quasi gelée. Donc le SMIC et le coût de la vie a petit à petit rattrapé les salaires. Aujourd'hui, en Meurthe-et-Moselle, on est fier de dire qu'on ouvre des postes, quand on a la faculté de les ouvrir à temps plein, où on est à 2000 euros brut en travaillant un week-end sur deux, parfois un sur trois, quand l'organisation des plannings permet d'avoir des équipes complètes, on arrive à un peu améliorer les conditions de travail et les conditions salariales, elles, se sont vraiment nettement améliorées. On était tellement en tension qu'on commettait le tort de dire on embauchait, allez, dans une semaine, vous volez de votre propre zèle et vous allez aller chez des personnes qui ont impérativement besoin de vous, même si vous n'êtes pas encore préparé à ce que vous allez rencontrer. On a changé notre fusil d'épaule parce qu'on a trop d'échecs dans le recrutement. Recruter 10 personnes et n'arriver à en garder que 4 au bout de 2 ou 6 mois, c'est un échec pour tout le monde. Prendre attention de nos aînés, c'est aussi prendre soin de ceux qui interviennent et correctement les traiter. Attention, ne laissons pas s'éroder à nouveau leur statut, leur salaire. Il n'est pas volé, hein, c'est qu'une réactualisation. Et maintenant, travaillons à améliorer leurs conditions de travail et la qualité de leurs interventions.
Donc on sent que c'est encore très précaire, très fragile, cette nouvelle stabilité dans le secteur.
Il faut adapter la charge de travail à ce qui est possible. De vouloir faire plus que ce qu'il est humainement possible de faire, c'est prendre le risque de perdre une professionnelle, puis une deuxième, et c'est ne plus pouvoir aider les personnes. Donc, il y a de la fragilité.
Donc, parfois, vous dites non. à certaines missions.
Oui, oui, alors c'est vrai que c'était pas habituel. C'est un moment difficile. C'est un moment difficile parce que on a le sentiment que on ne répond pas comme on le voudrait aux personnes justement. Quand il y a fragilité, on devrait avoir plus d'égards. On en a, mais ce n'est pas forcément perçu toujours comme ça.
Coucou Madame Chapaï. Bonjour. Ça va? On va casser la croûte.
On va chez une dame qui a 95 ans.
Coucou Madame Leclerc. Bonjour.
Ça va? Je suis pas bien.
Vous avez des températures?
Coucou Madame Chapaï.
Madame Chapaï. Vous me dites si c'est chaud. C'est chaud?
Allez, on continue notre tournée avec Valérie. On va chez un couple cette fois. Le monsieur est âgé de 98 ans et la dame 91.
Bonjour monsieur Landry. Vous allez bien?
Bien, merci.
Bonjour monsieur. Vanessa, vous étiez au courant monsieur Landry?
Bon, on m'a dit qu'elle viendrait, oui.
Eh ben voilà. C'est pour France Inter.
Oh.
Bonjour Madame Landry. Vous allez bien?
Cette femme est la dernière des 6 visites de la matinée de Valérie. La patiente a fait un AVC il y a 9 ans. Son mari a longtemps géré les repas, tout seul, mais depuis 2 ans, trop fatigué, il a demandé de l'aide.
Vous avez passé un bon week-end, Monsieur Landry?
Oui, comme toujours.
Comme toujours. Alors là, c'est un autre aspect du métier, c'est le repas.
Le repas.
Les deux repas. Voilà, Madame Landry.
Qu'est-ce que c'est?
Du sauterelle.
Hein?
C'est pas bon?
Ah, si.
Ah, bon.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Ça va?
Oui, merci. Oui.
C'est vrai que tu sais. Ah.
Qui c'est qui est là?
C'est ma sœur.
Ah, voyez.
Vous êtes la sœur?
Oui, je suis sa sœur. Oh, oui.
Enchantée, madame.
Merci, oui.
Sans cette présence, ça veut dire un établissement, un EHPAD ou autre, c'est ça?
Voilà, il faudrait qu'il soit placé. Hein. Mon beau-frère, non, il n'est pas encore se débrouiller, lui. Mais ma sœur, s'il n'était pas là, ma sœur irait à l'hôpital.
Et il n'en est pas question?
Oh non. Oh non, oh non. Tant qu'ils sont là, moi, je suis contente aussi, vous voyez.
Est-ce que vous êtes à côté? Vous habitez à côté de votre sœur? De chez votre sœur?
Oui, ce serait pas loin, oui. Enfin, on a toujours été ensemble, vous voyez. C'est déjà beau, hein. Et puis, on est toujours ensemble, c'est ça. Ah oui.
Salut.
Bonjour. Ah ben, il y a de la visite aujourd'hui.
Ah, c'est ma nièce, là, leur fille, vous voyez.
Bien. Bonjour madame.
Bien jeune.
Bonjour, bonjour madame. Madame. Bonjour Valérie. Bonjour tata, bon anniversaire.
Merci,
avec un peu de retard.
C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai vu le Médéric samedi.
Oui, il est venu dire bonjour.
Toujours. Oui, oui.
Vous voulez qu'on reste là, qu'on se mette à côté?
Bah, juste là. Voilà. Juste à côté, dans la cuisine.
Voilà, allez-y.
On va laisser Valérie finir le repas voilà, comme ça, tranquillement. Et nous, on va discuter avec vous, Jeanne, donc la fille de monsieur et madame Landry, chez qui nous sommes en ce moment. Un petit peu discuter avec votre père et j'ai bien compris que pour lui, envoyer votre mère dans un établissement, c'est même hors de question. Donc voilà, pour vous, c'est le maintien à domicile, forcément.
Tant que c'est possible. C'est aussi au niveau d'une philosophie de vie, peut-être aussi parce que c'était un petit peu comme ça au niveau social. Mes grands-parents ont vécu avec mes parents jusqu'à leur décès, autant les parents de papa que les parents de maman. Même si on ne faisait pas le même modèle, c'est-à-dire les prendre avec nous, habiter avec eux, mais il est hors de question qu'ils n'en aient pas tant que leur désir, c'était de rester à la maison. Donc là, avec la DMR, bah, c'est ce qui rend la chose possible. Et si ça devait s'aggraver, je pense qu'on passerait un certain nombre de temps avant, en venant, ma sœur ou moi, s'installer ici, le temps de voir quelle est la meilleure solution pour eux. Voilà.
à la lumière des services que vous apporte la DMR et d'une manière générale le métier d'aide à domicile, est-ce que vous considérez que ce métier est reconnu à sa juste valeur dans la société ?
Bien sûr que non. C'est un peu comme les enseignants. Enfin, c'est un peu comme on va pas revenir sur un débat social qu'on a eu pendant le Covid. C'est un peu comme toutes les personnes qui sont là pour aider la vie au quotidien des personnes. Bien entendu, c'est pas du tout. Je pense même que c'est dédaigné. Enfin, je vais fort. Moi, je pense qu'il y a vraiment un dédain de la part des dirigeants, que ce soit politique ou social ou financière. Il y a vraiment un dédain de ces métiers qui sont pourtant absolument nécessaires à la poursuite d'une vie sociale et d'une vie avec des échanges humains. C'est un métier qui est bien malheureusement loin d'être connu à sa juste valeur.
Pour quelles raisons, selon vous ? Vous parlez de dédain, de mépris. J'entends complètement, mais pour quelles raisons ?
Parce qu'on est dans une société libérale où en fait ce qui est important, c'est ce qui rapporte du fric. Et les personnes âgées, ça ne rapporte pas de fric, ça en coûte. On a perdu le sens de la relation, de l'humanité, de la prise en charge des personnes qui sont faibles. Et ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel il faudrait que notre société réfléchisse. Mais malheureusement, je n'y crois pas.
Métier de deuxième ligne, métier de première importance, c'était un reportage de Vanessa Descoureaux. Réalisation Jérôme Chélius, assisté de Martine Messonnier, mixage d'Ophar Guéride. Reportage disponible dès maintenant à la réécoute sur franceinter.fr.